j'ai redécouvert mes enfants, que j'avais pas la chance de voir assez souvent à mes yeux. Mais là, je suis plus dispo pour eux, pour l'école, pour aller les chercher, les récupérer, etc. C'était primordial, en fait, quand j'ai quitté ma précédente boîte, c'était de me retrouver avant tout en famille.
Joanne, la quarantaine, a trouvé l'équilibre recherché par tant de salariés entre sa vie personnelle enfin épanouie et sa vie professionnelle bien remplie. Il lui a fallu pour ça changer de métier, de secteur et donc d'entreprise. Il travaille désormais pour l'une de celles qui assument de mettre en avant le bien-être au travail. Entre la crise Covid et un marché de l'emploi partiellement en tension, des priorités nouvelles ont émergé. Une meilleure qualité de vie, une nouvelle organisation ou un temps de travail réduit. La mutation est même économiquement viable pour certains patrons.
Au départ, il y avait un peu de philanthropie dans mon idée, mais moi, maintenant que je le vois fonctionner, je me dis, mais en réalité, ça marche même économiquement. C'est absurde de ne pas avancer. On a une mesure qui fait du bien aux gens et qui en même temps est économiquement viable. On ne devrait même pas se poser la question.
Comment donner une place raisonnable au travail dans sa vie? Ce questionnement est central et notamment pour les plus jeunes. Selon une enquête BVA, 85% des 18-24 ans pensent que des salariés bien traités par leur entreprise la rendent plus performante. Deux grands groupes l'ont bien compris et permettent aujourd'hui à leurs cadres d'aller respirer hors de leurs murs, dans l'espoir quand même qu'ils reviennent au bercail.
Avant, je passais, 4-5 heures de ma journée en réunion. Ça, pour moi, c'est chaos à la reprise. Je ne vais en réunion que si c'est hyper utile. Voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'à la reprise, je veux faire que de l'utile.
Ce reportage commence à Paris dans un salon qui vante les mérites de la Normandie. Il s'agit de faire les yeux doux aux employés à la recherche d'air frais et de vue sur la mer. Pour ça, une agence locale les aide à trouver un travail avant tout, mais aussi une maison, un emploi pour le conjoint. Une offre générale pour attirer les salariés qui ont décidé que le travail n'était pas tout dans leur vie. Travailler autrement pour vivre mieux, c'est un reportage d'Antoine Gignot avec Gilles Gallinaro à la prise de son.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Et les collectivités. Les entreprises, d'accord, elles sont vraiment au niveau 1 et au 2. Les zones de recherche, elles sont vraiment autour de quand,
hein. Si possible, quand et les environs.
Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est ce paragraphe-là, en fait, c'est simplement une liste très synthétique, oui, des entreprises qui ont des besoins de recrutement à l'instant T. À quand on innove pour un meilleur monde demain, si je puis dire. Vous avez notamment présent aujourd'hui
Stellantis,
mais vous avez aussi des sociétés comme Déjà Mobile.
Oui.
Je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, j'ai vu en tout cas leur stand.
Il y a Soyuz aussi, oui, qui est plutôt spécialisé dans la transformation digitale.
Voilà. J'ai eu une discussion avec eux, on a échangé. J'ai échangé un CV aussi.
Très bien, j'allais vous dire d'aller les voir, donc c'est parfait.
Bonjour, je m'appelle Jonathan et ça fait 20 ans que je suis sur Paris. Je suis originaire de Caen. Je pense aujourd'hui avoir fait un peu le tour. Et comme beaucoup de gens, à l'issue des confinements successifs, des évolutions du contexte international, le retour sur la Normandie avec une autre façon de travailler et de vivre, c'était le salon qui tombait bien au bon moment.
L'argument ici, c'est de dire vous gagnerez peut-être un peu moins, mais la qualité de vie sera au rendez-vous.
Moi, je suis prêt à diviser mon salaire par deux pour revenir en Normandie. Je ne suis plus dans une optique de carrière ou de... C'est vraiment sur une optique de se dire aujourd'hui, changement de vie, retour aux sources. La priorité, elle est sur la vie de famille, elle est sur le cadre de vie. Les services que proposer une ville comme Caen, où on est à 15 minutes de la mer et on se dit qu'après le travail, en 15 minutes, on peut aller faire l'apéro en bord de plage, ce qu'on ne pourra pas jamais faire à Paris, ou alors Paris-plage bondée, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment un bon point d'entrée, et surtout avec des entreprises qui sont aussi motivées pour recruter, parce que quand elles viennent de la Normandie jusqu'ici, c'est qu'elles ont des besoins qu'elles n'arrivent pas à recruter, et donc on n'est pas juste sur des entreprises qui sont là pour faire de la représentation. On est vraiment là sur des entreprises qui cherchent des gens, qui ont des besoins, et du coup qui sont vraiment à l'écoute de ce qu'on a à leur apporter, et c'est vrai que ça c'est un gros point fort du salon.
De revenir à Caen, en tout cas.
C'est vrai, c'est l'objectif d'avoir des contacts.
Aurélie Gallienne, je suis responsable du pôle marketing
à l'agence Calvados Attractivité.
Je pense notamment Supply Web, est-ce que vous les avez vus ?
Nous, on recherche à peu près 10 000 postes sur le Calvados. Au niveau du Calvados et de la Manche, ça monte à 16 000 offres d'emploi. Alors, on est parti du principe que nous, agence d'attractivité, on avait vraiment à faire valoir le cadre de vie. On va vraiment accompagner les personnes, que ce soit sur l'aide à l'emploi du conjoint, la recherche de mode de garde ou l'inscription des enfants à l'école. Et puis, l'aide également à la recherche d'un logement, c'est quelque chose maintenant que l'on propose pour les gens qui s'installent. Et on se rend compte que vraiment, les gens sont beaucoup plus confiants et que ça prend aussi moins de temps. Et voilà, bien évidemment, on va essayer de les faire venir et surtout de les garder sur le territoire en les mettant en immersion sur leur futur lieu de résidence et en leur proposant aussi toute l'offre de loisirs, culturels et sportifs à disposition sur place.
C'est vraiment un argument supplémentaire ? Le travail en lui-même suffit plus ?
Non, le travail en lui-même suffit plus. Maintenant, on a quand même un phénomène de grande démission qui s'est propagé sur toute la France. Ça se propage encore sur 2022. Mais le fait que les entreprises leur proposent des journées de télétravail par semaine ou la semaine de 4 jours, c'est encore assez rare pour l'instant. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a une réelle motivation de privilégier plus l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle.
Quel que soit le secteur, ici vous avez des offres d'emploi tous azimuts ?
Oui, alors fortement représentée tout de même l'industrie, avec l'industrie agroalimentaire, textile, mais également tout ce qui va être tourisme sur l'hôtellerie, la restauration, également la banque, le conseil et le secteur du numérique.
Bon ben merci en tout cas.
Bonjour, je suis Christophe Delabre, entrepreneur dans le bâtiment et également le vice-président de la Fédération du bâtiment pour le Calvados.
Les gens qui viennent ici, vous leur dites quoi ? Le gain numéro un, c'est quoi ? C'est la qualité de vie, c'est l'intérêt du travail ?
Non, c'est vraiment la qualité de vie. On a la chance, notamment sur l'Ouest normand, d'avoir tout sur place, et vraiment à proximité, que ce soit les activités culturelles, sportives, associatives, l'immobilier qui est pas cher, les produits locaux. Au fait, on est quand même qu'à 2 heures de Paris. Et puis, c'est un territoire qui explose d'un point de vue économique. Le recrutement, c'est un vrai sujet pour toutes les entreprises. C'est la raison de notre présence aujourd'hui ici à Paris. C'est venez chez nous, il y a des possibilités à tout niveau du stade de votre carrière de venir. C'est le moment de le faire, bougez-vous, faites-le. La prise de risque, elle est limitée parce qu'il y a des gens qui sont bienveillants, qui sont là et qui vous attendent. On a un taux de chômage qui est à 5,5% sur le territoire, on est au plein emploi. Profitez-en, on va se battre pour vous recruter, quoi. Et vous montez en compétences. Toutes les entreprises que je connais dans le bâtiment recrutent, vraiment. Et à tous les stades, de l'ouvrier qualifié en priorité, et puis effectivement même des cadres.
Les attentes des candidats ont changé ?
Toutes ces jeunes générations, le travail, oui, c'est important, mais c'est pas suffisant. Donc effectivement, il faut faire preuve de souplesse, même si on a quand même des règles du jeu à tenir. Si on fait partie d'une équipe, que toute l'équipe commence à 8h le matin, tout le monde est là à 8h le matin, forcément. Par contre, si tu as un souci parce que tu veux aller ton club de foot ou de sport, l'entraînement c'est le mercredi à 17h, on va faire en sorte qu'on puisse te libérer pour que tu puisses être à ton entraînement à 17h. La contrepartie, c'est qu'effectivement, on se montre solidaire et bienveillant. C'est la règle.
Adapter les horaires, les plannings en fonction des besoins des salariés, c'est ce que fait la quincaillerie Le Galet, en périphérie de Caen. Elle fabrique des vis, du matériel pour les professionnels du bâtiment. 12 000 colis arrivent ou repartent chaque jour des gigantesques entrepôts de Saint-André-sur-Orne. Avec des tapis roulants, des robots, des chaînes de production, c'est dans ce décor qu'on va parler bien-être au travail.
Bonjour.
Bonjour, donc je suis Anne Prespeuch, la directrice d'exploitation de la plateforme logistique. Alors, je vais juste vous inviter à vous enregistrer, parce qu'il y a des petites consignes de sécurité.
Je suis en train de vous enregistrer. Et puis, on aura un gilet jaune et des coques à mettre pour vous déplacer en sécurité.
Coques sur les chaussures.
C'est ça, tout à fait.
Et votre pointure, c'est combien ?
47.
47.
Ah, voilà Loïs.
Allez-y.
Ça va ? On a mis les affaires de monsieur dans votre bureau.
Oui, pas de souci, très bien. Bonjour.
Bonjour. Noura, tout ça, c'est par là.
Hein,
c'est
Noura là. Guérin. Ouais, c'est bon.
Donc, au niveau des flux mécanisés. Donc là, vous voyez
tous les colis en fait qui sont en préparation. Vous avez une partie donc en hauteur, ce qu'on appelle chez nous la mezzanine. Vous avez toute une partie de l'équipe qui est en haut et qui réceptionne les colis pour des plus petits produits.
Qui circulent sur des tapis roulants.
Des tapis roulants, absolument.
Donc, je m'appelle Joël Tomalac. Donc, ça fait un an que je suis arrivé chez Le Galet, donc sur le service retour. Moi, je viens pas du tout du secteur de la logistique, je viens plutôt du domaine du commerce, où je travaillais 17 ans dans le domaine du jouet.
Habiter ici, ça change quoi pour vous ?
En Normandie,
ouais.
Ça change tout. J'habite à 10 minutes, donc c'est pas loin du tout. J'ai redécouvert mes enfants, que j'avais pas la chance de voir assez souvent à mes yeux. Mais là, je suis plus dispo pour eux, pour l'école, pour aller les chercher, les récupérer, etc. Quand j'ai quitté ma précédente boîte, c'était primordial, en fait, c'était de me retrouver avant tout en famille, déjà, avec ma famille. J'ai quitté le commerce pour ça.
Et vous, dans votre rapport au travail, c'est quoi ? C'est le salaire, l'ambiance, le lieu sur lequel vous vivez et vous travaillez ?
Le salaire, je gagne honnêtement quasiment ce que je gagnais dans ma précédente boîte où je suis resté 17 ans dans le commerce. Je travaille moins loin de chez moi. Et puis, l'ambiance, rien à voir. Tout le monde a le sourire, tout le monde se dit bonjour, au revoir. Et ça, c'est vraiment appréciable et je dirais même primordial pour avoir envie de travailler dans une entreprise.
Même sur des tâches qui ne sont pas forcément simples ou même gratifiantes, il y a du physique pas forcément facile aussi.
Il y a du physique, mais tout est fait pour travailler avec des moyens qui nous permettent de s'entretenir et de pas se blesser, entre autres, etc. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a étonné, en fait, quand je suis arrivé chez Le Galet, d'avoir des moyens aussi performants et puis que tout le monde faisait attention l'un à l'autre. Voilà, je veux dire,
vous pouvez me montrer ce que ça donne justement en termes de sécurité quand vous parlez de moyens, c'est quoi ?
On a des ciseaux mis à disposition pour lever les palettes et travailler et ouvrir nos cartons à hauteur avec un cutter, entre autres. On fait en sorte d'être à l'aise dans ce travail-là. On ressent pas cette difficulté physique finalement. Et ça, c'est important. Moi, d'où je venais, on n'avait pas toutes ces choses mises en place. Et là, je peux vous dire que c'était très compliqué, les accidents de travail réguliers. Parce que forcément, on se blesse. Il suffit de regarder notamment les chiffres des accidents de travail au niveau de Le Galet. Ça ne doit pas être important de mémoire. Donc, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose, que tout est fait en tous les cas pour que le salarié ne risque rien en termes d'accident au travail.
Je me présente Fabien Conan, j'ai 38 ans, je viens de la Côte d'Ivoire, père de 3 enfants. Voilà. J'ai été embauché le 5 septembre 2022. Je ne connaissais pas vraiment la région. Et le premier jour que j'ai commencé à travailler, d'abord j'ai vu une très bonne ambiance au niveau de tous les collègues. C'est-à-dire à chaque fois on a des briefs de sécurité pour faire attention à nous, faire attention à son collègue et autres et tout. Et ensuite aussi, en termes d'horaire, on travaille en horaire décalé, c'est-à-dire 5h45, 13h30, et une autre équipe qui monte à 13h30, qui finit à 21h, et une autre équipe qui travaille la nuit. Et donc, du coup, ça permet vraiment à chacun de pouvoir faire un emploi du temps pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Quand je finis de travailler, je me consacre à ma famille, et ça me permet aussi d'aller à d'autres rendez-vous, voilà, des rendez-vous administratifs. Ça permet aussi de faire du sport et des loisirs et tout. Donc voilà, c'est ça.
Vous faites quoi comme sport ?
Je joue au football. Ça permet vraiment de faire les entraînements. Vu là maintenant, moi je finis à 13h30. Je reprends demain à 5h45. J'ai tout le temps. Voilà, j'ai tout le temps d'aller au foot à 16h, 17h, même aller à la gym et tout ça, faire de la muscu. Ça dépend. Donc vraiment, l'emploi du temps, il est super pour moi.
Vous avez travaillé dans d'autres grosses entreprises avant ?
Je ne sais pas si ce sont des grosses entreprises, mais j'ai été un peu dans le BTP. Et donc vraiment, ce n'était pas pareil. Donc je peux dire que je me sens vraiment bien ici. C'est ça qui est le plus important.
Presque plus que le salaire.
Le salaire, on parle toujours du salaire. Mais après aussi, quand tu travailles, tu n'as pas de pression. Je suis tout le temps content, franchement.
La bonne humeur, c'est ce qui a permis l'an dernier à l'entreprise de décrocher la certification Great Place to Work. le label mondial de référence en matière de bien-être au travail, distingue chaque année une centaine d'entreprises françaises. Mais si les employés ont le sourire, il n'y a aucune concession sur la cadence.
Mathilde Robert, responsable de recrutement pour Le Galet.
L'obtention d'un label qualité de vie au travail, ça change vraiment la donne pour convaincre les candidats?
Alors oui, ça attire les candidats, ça pose un label, ça pose un challenge surtout au niveau de l'équipe recrutement, on en est responsable. On doit aussi vérifier que les candidats soient attirés par une réalité. On ne vend pas du rêve avec notre label. Great Place to Work, ce n'est pas juste des distributeurs gratuits de glace. Hein. C'est des métiers qui sont exigeants, physiques. Il y a un rythme, il y a une cadence. Donc on peut pas non plus, on n'est pas une start-up. Ce n'est pas des produits zapping non plus, c'est du concret, c'est de la vis, c'est de l'outillage. Ce n'est pas le produit le plus sexy, mais par contre, c'est un produit qui est utile. Et c'est ça qui fait que Le Galet aussi résiste.
La clé, c'est le cadre et l'adaptabilité face à certaines demandes, certaines particularités des salariés. On l'a compris, il y a aussi des emplois du temps un peu adaptés, il y a aussi des cas particuliers. Où est la marge de manœuvre finalement quand on est dans une entreprise où le fonctionnement est aussi normé?
Alors le fonctionnement est très normé, mais il est très intelligent. La performance du collaborateur, quand on l'écoute, quand on le met à la bonne place, elle est décuplée. Une bonne personne à un mauvais poste, il va avoir des difficultés à être performant. On va perdre peut-être 30-40% de sa performance. Vous l'écoutez, vous le mettez dans de bonnes conditions, avec une organisation horaire. On l'entendait, un père qui peut aller chercher ses enfants à l'école. Et ben, le lendemain, il va être mieux, il va mieux travailler, il va donner un peu plus. Vous lui donnez des perspectives d'évolution aussi. En fait, évoluer des personnes en interne, en logistique, en point de vente, ce sont des magasiniers, des vendeurs point de vente qui ont évolué.
Oui, c'est pas de la philanthropie non plus. On perd pas de vue que l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne.
Ah bah complètement. Enfin, moi, je ne travaille pas pour un service public. Je ne travaille pas pour l'intérêt général. Pas du tout. En fait, notre vocation, elle est qu'on puisse embaucher un peu plus, donner du travail dans de bonnes conditions. Donc, c'est pas pour pas se leurrer. On est une entreprise de négoce, en fait.
On a changé de façon de recruter les gens. Est-ce que vraiment on voit la différence dans les candidatures que vous recevez, que vous retenez aussi?
Oui, clairement, on a plus du tout de profil qui accepte de faire un poste, on va dire, hyper répétitif. C'est plus des postes qui attirent. Maintenant, les candidats choisissent un peu plus. Le recruteur, c'est plus du tout ce qu'on pouvait avoir dans les années 2000, on va dire, une personne issue de la gestion du personnel. Les recruteurs, maintenant, sont vraiment des commerciaux.
Là, vous cherchez combien de personnes en ce moment?
Alors, on a 80 postes d'ouverts. Sur une année, on va recruter à peu près 250 collaborateurs. On a à peu près 60% des postes qui sont ouverts en création, donc en croissance.
Pour certaines entreprises, l'attractivité dépend d'un autre argument choc, le temps de travail, avec le passage à la semaine de 4 jours. En Europe, la Belgique et l'Espagne font office de pionnières. Le Royaume-Uni, lui, est actuellement en phase de test. En France, il y a bien quelques entreprises très minoritaires qui ont sauté le pas. Et c'est le cas depuis janvier 2021 de LDLC, qui vend du matériel informatique.
LDLC.
Antoine Gignot et Gilles Gallinaro se sont rendus dans les locaux lyonnais de la société un jeudi après-midi, quelques heures donc avant le début du week-end.
Interception sur France Inter.
Il a combien le PV?
Je sais même plus.
10, ça dépend des machines. Celui-là, je crois qu'il a 10. Celui-là. Non, celui-là, il a 10. Celui-là, il est plus cher. Ou moins cher, je sais plus. Bon, c'est de l'ordre du 10 centimes, un truc comme ça.
10 centimes le PV?
Ouais, je crois.
On le paye 50 en radio française.
Ça, bah venez bosser ici. Moi c'est Jules, voilà. Je travaille à la DSI, je suis développeur Java aussi.
Mathieu, développeur à la DSI, j'ai 46 ans.
Vous avez pris quel jour vous?
Alors nous on est en alternance vendredi lundi.
C'est-à-dire alternativement une semaine lundi, une semaine vendredi?
C'est ça. Donc en fait concrètement toutes les deux semaines on a un week-end de 4 jours. Alternativement, donc voilà.
Pas forcément désagréable.
C'est plutôt très agréable, en effet.
Vous étiez là avant que ça passe au...
Ouais.
La différence, elle est sensible ?
En termes de vie perso, c'est carrément mieux. Enfin, ça permet vraiment de se reposer tout un week-end de 4 jours, de s'occuper de la maison, de plein de choses.
La philosophie de la boîte est quand même totalement différente des autres boîtes. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de boîtes et l'humain est totalement absent, alors qu'ici, pas du tout, quoi.
L'argument de la direction, c'est de dire, de toute façon, c'est bénéfique, même en termes de productivité. Vous observez ça, vous aussi, dans le boulot ?
Ouais, je pense, ouais. Parce que, du coup, obligatoirement, ça nous donne plus, individuellement, envie de s'investir pour la boîte.
Mais du coup, inconsciemment, on se dit, avec tous les efforts qu'ils font pour nous, inconsciemment, ça paraît normal de travailler différemment, et voilà.
Alors, Margot Malatret, je m'occupe du marketing chez LDLC Pro.
Vous êtes là depuis ?
Depuis 2019, donc ça fait 3 ans et demi déjà.
Vous avez vécu l'avant et l'après, semaine de 4 jours.
Oui.
Qu'est-ce que ça change concrètement dans l'organisation de la semaine ?
Alors moi j'ai choisi le vendredi. C'est pratique quand on n'a pas d'enfant, c'est toujours le jour qui est le plus sympa. Les journées sont plus chargées, bien sûr, plus d'heures forcément. On a 2 jours sur site obligatoire minimum et après 2 jours de télétravail maximum par semaine. Alors quand je suis chez moi, forcément j'ai pas les transports, donc je commence vers 8h30 jusqu'à 18h avec une pause à peu près 1h, 1h30. Ici j'arrive à 9h et fin 18h avec une pause 1h30, 1h. Mais je l'ai vraiment senti au niveau de la fatigue, vraiment j'arrive beaucoup moins fatiguée. J'en ai profité pour recontacter mon DUT et pouvoir donner des cours aux élèves de marketing. Voilà. Ou sinon c'est tout bête des tâches ménagères, des courses, des choses comme ça quoi. C'est pas forcément des choses qui font rêver, mais c'est des choses comme ça. J'ai mon week-end, j'ai mes 2 jours vraiment pleins. J'ai quand même le temps de faire tout ce que j'ai besoin, mes rendez-vous perso, médicaux, enfin voilà, tout ce qu'on a à faire. Après j'ai le temps de le faire, donc on va être peut-être plus efficace dans les tâches et c'est vraiment un bel équilibre à la fin qu'on a entre vie de famille et vie au travail. En fait on se sent privilégié, je dirais ça. Surtout actuellement, où on en parle beaucoup de la semaine de 4 jours, mais c'est très compliqué en France de le mettre en place, je trouve, dans l'esprit français encore. Ça reste encore un peu marginal. C'est compliqué, et voilà, les remarques qu'on peut avoir, c'est « Ah, vous travaillez pas trop, c'est tranquille », alors qu'on travaille beaucoup, mais c'est que sur 4 jours.
Vous ne reviendriez pas en arrière ?
Ça va être très compliqué. Disons que il faut vraiment que, si j'ai à changer d'entreprise, il faut vraiment que le projet, la mission, les missions m'intéressent vraiment. Parce que c'est vrai qu'on prend quand même vite goût à ces 4 jours, 3 jours. Alors moi, ce que je vais mettre vraiment en tête des priorités, c'est le sens. Le sens de mon travail, qu'est-ce que je fais, quelles sont les missions, est-ce que ça va vraiment me faire grandir, évoluer, qu'est-ce que je vais encore apprendre, parce que je pense qu'on peut toujours apprendre. Après, bien sûr, il va y avoir le salaire qui est aussi, mais je mettrai vraiment les missions vraiment, vraiment en avant. Et après, bien sûr, tout ce qui est cadre de vie, on va pas se mentir.
Y compris d'adapter justement le temps de travail et les postes.
Tout à fait, ouais.
Parce que moi, je pourrais les livrer de franche.
Est-ce que tu voudrais faire livrer là,
en fait, du coup, il m'en manque 3 à 4.
Bonjour.
Vincent. Ah, c'est donc vous.
Enchanté.
Antoine Vignier.
Bonjour, enchanté.
Bonjour aussi.
Moi je m'appelle Vincent, je suis en poste ici, je m'occupe des réseaux sociaux pour le groupe LDLC, donc je suis community manager.
Et donc en week-end dans 3 heures.
En week-end dans 2h30 là, ouais, tout à fait, donc forcément ça a un peu changé la vie. Donc je laisse mon collègue qui est là-bas s'occuper du reste pendant que je serai pas là demain.
Le changement, au-delà de la vie personnelle, sur le travail, il est conséquent ?
Clairement, parce que du coup au début il a fallu se réorganiser. Et ça, forcément, les premières étapes, on se dit « Ok, comment ça va se passer ? Il y a des collègues qui vont devoir absorber mon travail pendant que je ne serai pas là. » Et en fait, ça se fait très, très vite.
Les journées, elles sont plus denses, vraiment, ou pas ?
Non, parce qu'on s'organise différemment. Après, il y a aussi pas mal de tâches parasites qu'on a pu éliminer. Comme par exemple, certains comptes rendus que personne ne lisait, qu'on n'est pas forcément toujours obligé de faire pour se concentrer sur l'essentiel. Et du coup, je n'ai pas l'impression que les journées soient plus denses. Et surtout, moi, pour le coup, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai mon vendredi, samedi, dimanche. Ça me fait des vraies, vraies, vraies coupures, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Elle est radicale, cette coupure de fin de semaine. Changement de rythme, changement d'activité. On quitte Lyon pour prendre une route de campagne, puis une allée de platane pour retrouver Vincent chez lui. C'est ici, au milieu des champs, dans une vieille maison, qu'il enregistre tous les vendredis des vidéos de recettes de cuisine.
Bonjour.
Bonjour, bah bienvenue.
On vous a laissé hier à quoi, 30 km d'ici?
C'est ça à peu près, ouais, un peu moins, mais c'est ça.
On vous retrouve vendredi donc?
C'est ça, en week-end, en pré-week-end, donc là c'est parti, on a commencé à installer pour tourner la vidéo de cuisine, pour une vidéo YouTube cette fois.
Allez, suivez-moi.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va nous emmener du côté du Japon. Aujourd'hui, on va partir sur des petites aubergines qu'on va faire frire et tremper dans un bouillon de dashi au safran. Ça va être une petite dinguerie, alors c'est parti.
Hop, donc là en fait c'est mon espace, c'est mon deuxième lieu de travail. En gros c'est là où je fais mes lives, là où je tourne mes vidéos. C'est mon espace de cuisine, donc c'est là où je passe le plus clair de mon temps en dehors du bureau.
Dès le début, vous avez basculé ce jour libéré pour le réserver à des activités liées à la cuisine. On est là au milieu des ingrédients, on a un chou gigantesque.
Il est énorme, oui.
Ça a démarré avec des formations.
En fait, au départ, ça fait très longtemps que je voulais faire de la cuisine, mais j'avais pas forcément le temps de le faire, mais depuis tout petit, en fait. On m'avait dit pas forcément de choisir cette voie. Je suis d'une génération où, quand on disait « je voulais faire de la cuisine », on m'a mis beaucoup de feux rouges en me disant « ça va être beaucoup trop dur, c'est vraiment des métiers trop difficiles, tu te rends pas compte, faut aller en filière générale ». Et les années passaient et j'avais pas forcément le loisir de, avec un planning chargé, de le faire. Et quand j'ai eu ce jour off qui s'est dessiné, je me suis dit ok, mais en fait c'est le meilleur timing pour faire ma formation. Parce que du coup je fais un CAP de cuisine en parallèle. J'ai créé avec ma compagne ma chaîne YouTube dédiée à la cuisine aussi. Donc on fait plus de la cuisine pour le coup entre la France et le Japon. On fait des cuisines un petit peu métissées. Et du coup ouais, c'est vrai que c'est le vendredi ça sert à ça. Et puis du coup les copains ils l'ont bien compris parce qu'en général ils savent que le vendredi soir c'est bien de venir à la maison parce que c'est le jour où je passe la journée en cuisine. Donc ils sont malins.
Vous faites quoi là aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va faire. Alors, je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle okonomiyaki. C'est un plat japonais. En gros, c'est une galette à base de choux, d'œufs, et on la pimpe un petit peu avec soit du calamar, soit du poulpe, soit de la viande. Un peu. C'est un peu comme les pizzas ici. C'est-à-dire, on met un peu ce qu'on veut dedans. C'est un plat qui est très populaire là-bas. Et on me l'a beaucoup demandé sur Internet, donc on va s'y coller. Ouais.
On vous laisse faire un peu.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire les nitamago. C'est parti.
C'est OK. Aujourd'hui, on vous emmène du côté du Japon pour une recette qui me tient vraiment à cœur, les okonomiyaki. C'est parti.
Parfait.
C'était bien ?
Parfait.
Hop. Donc, ce qu'on aime, c'est utiliser les produits qu'on a là, utiliser les produits de saison et puis les transposer avec d'autres méthodes de cuisson, d'autres méthodes d'assaisonnement. Et moi, c'est ce qui me passionne, quoi. Donc forcément, ça change de quand vous m'avez vu hier sur mon poste de travail. Mais moi, ce que je trouve très cool, justement, par rapport à ça, c'est que la cuisine, c'est un boulot qui demande de l'énergie. On fait les tournages, on s'active, on porte des choses. Et justement, avoir cette partie de la semaine où je suis sur mon fauteuil avec un boulot plus sédentaire, mélangé avec cette activité un peu plus rythmée, ce décalage, moi, il me plaît trop, en fait. Parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir deux métiers différents, un petit peu, quoi.
Ça fait vraiment la différence par rapport à ce que vous avez vécu avant le passage à la semaine de 4 jours ?
C'est le jour et la nuit, hein. Franchement, il n'y a pas de comparaison possible, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, si on me dit, pour faire le même métier, de changer d'entreprise, pour revenir à un rythme comme j'étais avant, je pense que je grincerais bien des dents quand même. Je pense qu'on pourrait me proposer un salaire un peu plus important ailleurs, ça m'intéresserait pas, pour le coup. Beaucoup de mes collègues même sont d'accord avec moi, quand on revient au boulot, le fait d'avoir eu... Après, j'ai mes deux jours de week-end où je vois mes amis, je vois ma famille, où je fais d'autres choses. J'arrive lundi, je suis super content parce que j'ai l'impression d'avoir une vraie pause et d'avoir pu vraiment profiter de mon week-end, quoi.
Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était en live sur Twitch.
Miser sur une meilleure efficacité, c'est l'idée de Laurent de la Clergerie. Mais en passant à la semaine de 4 jours, le PDG fondateur de LDLC a aussi réussi à fidéliser ses salariés. Dans son bureau, des dizaines de messages de remerciements. Plus personne, ou presque, ne songe à quitter l'entreprise. Le turnover, supérieur à 10% en 2019, est passé en dessous des 2,5%. Et c'est une mesure qui ne lui a pas coûté très cher.
Quand je l'ai mis en place, le passage de 5 jours à 4 jours, je me suis dit que ça allait me coûter de l'argent. Surtout du fait que je passe à 32 heures, parce qu'en fait, c'est 9% d'heures en moins. Alors sur le coup, je vais être très honnête, je me suis dit le vendredi après-midi dans les bureaux, ils ne bossent pas tant que ça. Donc quand j'ai fait mon calcul, je me suis dit ça ne va pas me coûter 9% de masse salariale, ça va me coûter 4 ou 5% parce que je suis sûr qu'il y a des heures qui sont un peu perdues et que je vais les retrouver. Et oui, j'ai imaginé qu'il y aurait un coût. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas, mais ça, on le sait qu'après, parce qu'en fait, on travaille beaucoup mieux en 32 heures et 4 jours qu'en 35 heures et 5 jours. Pour 80% des gens qui sont dans l'entreprise, ce qu'ils vont faire en 8 heures ou 8h45, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont diluer leur journée sur 8h45. Je vais prendre un sujet qui arrive très souvent dans les boîtes et qu'on connaît tous. Il y a beaucoup d'absences où le gars arrive un matin et dit je suis fatigué, j'ai 15 jours d'arrêt parce que je suis sous stress et autres. Et ces trucs-là, quand on est patron et qu'on les voit arriver, on dit il m'a encore collé un arrêt de travail d'agrément avec son médecin. On l'a vécu comme d'autres, aujourd'hui je le vis plus ce genre d'arrêt.
En termes économiques, qu'est-ce que vous, patron, vous y avez gagné? Est-ce que vous savez le chiffrer?
Alors j'ai un chiffre qui est très concret là pour le coup. Parce que ça avait été une bonne année pour nous, on avait fait 500 millions en 2018, on était 1050 collaborateurs. Et je me rappelle qu'en fin d'année, justement, l'absentéisme avait un peu monté, j'étais venu vers les collaborateurs pour leur demander pourquoi. Et on a eu une super année, mais on était fatigués à la fin de l'année. L'année dernière, on a fait 680 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était 10 collaborateurs de plus, soit 1060. Donc 40% de croissance pour 10 collaborateurs, 1% de plus. Et à la fin de l'année, ils avaient la pêche. Pas de fatigue, rien du tout. Et on était passé aux 4 jours 32 heures. Donc théoriquement, on a tout fait pour devoir recruter, pour fatiguer les gens si on fait le même travail avec le même nombre de collaborateurs. Et non, c'est tout le contraire qui s'est produit.
Le sujet de cette réduction du temps de travail, il est éminemment politique, notamment parce que la gauche s'est positionnée plutôt en faveur d'une semaine de 4 jours et parce que Emmanuel Macron, pendant la présentation du plan France 2030, a expliqué que le pays globalement travaillait moins que les autres en quantité, qu'il y avait donc une réflexion à mener sur le sujet. Si on regarde sans contexte politique, prosaïquement, le temps de travail, qu'est-ce qu'on y gagne pour vous?
Clairement, le mal du siècle, de ce siècle-là qu'on a entamé, c'est le stress. Et c'est là qu'en fait on se trompe dans le débat. On fonctionne comme à l'époque où on avait des chaînes automatiques devant nous qui avaient une cadence et on se dit il y a une cadence donc j'ai plus de production à la fin, sauf que notre cerveau n'est pas cadencé comme une chaîne automatique, il sature et quand il sature il produit plus. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui et si on arrive à désaturer le cerveau en offrant ce temps qu'on a tous perdu, ce notre temps à soi parce que clairement on l'a plus, eh ben on va arriver à retrouver du travail, une meilleure efficacité. Il est là le vrai débat.
Est-ce que cette initiative-là est transposable à des PME, à des entreprises plus petites, à des entreprises en difficulté?
Au moment où j'ai mis la mesure en place, je me suis posé la question, et si un jour tu es en difficulté, qu'est-ce que tu fais puisque tu le mets en place et qu'est-ce que tu feras ce jour-là? Et je m'étais dit, si tu dis aux équipes pendant 6 mois, les gars, on n'a pas le choix, faut qu'on revienne aux 5 jours, ils le feront. Mais ça, c'est ce que je m'étais dit avant. Aujourd'hui, je sais qu'ils travaillent mieux en 4 qu'en 5. Donc je le ferai même pas. Le truc qui me frustre, c'est que je pense que plus la boîte est grosse déjà, plus c'est facile à mettre en place. Ce qui fait peur dans une grosse boîte, c'est que ça veut dire revoir tous les plannings de la boîte, revoir tous les services. Et ça, ça fait très peur parce que c'est bouleversé dans la boîte.
Et l'ampleur de la masse salariale aussi.
Exactement. Dans les plus petites structures, ça va dépendre des métiers. Et là, je sais pas. Nous, par exemple, si je prends les boutiques, on s'est rendu compte qu'à 3 salariés, ça passait pas. Il fallait être 4. Et quand, à partir de 4, on a réussi à le mettre en place. Donc en dessous aussi, ça peut être encore plus compliqué. Il y a d'autres métiers où ça peut être compliqué. Je prends les métiers de conseil qui vendent des journées hommes. Bah, si je vends 4 jours au lieu de 5, il me manque 20% de mon chiffre d'affaires à la fin de la semaine. Donc voilà, il y a des tas d'endroits. Là, je prends 2 exemples, mais il y a des tas d'endroits où, effectivement, c'est peut-être pas possible. On peut parler dans le débat politique, on en parle à gauche, on n'en parle pas à droite. Mais c'est une mesure qui est à la fois sociale, parce qu'elle apporte du bien-être, et donc on peut en voir le côté social. Mais en réalité, elle est économique, l'entreprise se porte mieux. Au départ, il y avait un peu de philanthropie dans mon idée, mais moi, maintenant que je le vois fonctionner, je me dis, mais en réalité, ça marche, même économiquement. Donc, c'est absurde de pas avancer. C'est pas un débat politique. On a une mesure qui fait du bien aux gens et qui, en même temps, est économiquement viable. On devrait même pas se poser la question.
Difficile de faire le bilan total de ces initiatives lancées en France ou à l'étranger. Il faudra quelques années pour tirer des conclusions, expliquent les spécialistes du marché du travail, qui face à l'image idyllique mise en avant par les entreprises appellent à la prudence. Attention à ne pas créer des difficultés nouvelles pour les salariés.
Alors Philippe Askenazy, je suis directeur de recherche au CNRS, économiste du travail. L'idée première de ces entreprises, c'est de retrouver de la productivité horaire lorsque les personnes sont présentes en entreprise, qu'elles soient performantes. Alors, ces initiatives sont aussi tirées par une volonté, en quelque sorte, de social washing. On va montrer, on est innovant, on avance beaucoup. Et ce qui permet aussi à ces entreprises de laisser de côté quand même la question salariale. C'est-à-dire que dans une période où on a une inflation qui est très, très significative, on voit bien que les salaires ne s'ajustent pas à ce niveau, que ce soit dans le privé comme dans le public. Et pour les entreprises, finalement, les salaires ont un effet cliqué. C'est-à-dire, une fois que vous avez donner des augmentations salariales, eh bien, il ne va pas y avoir de réajustement par le bas. Alors que l'ensemble, finalement, de ces expérimentations, de ces outils, permettent de laisser de côté des questionnements fondamentaux de pénibilité, de sens du travail, de niveau de rémunération pour faire une compensation qui, elle, serait bien plus transitoire à travers ce type d'outils. Effectivement, les grands sujets autour du travail peuvent être, en quelque sorte, cachés derrière un voile d'innovation. Et dans tous les cas, quelles que soient ces démarches, on ne remet pas en cause les fondamentaux de ce que sont le capitalisme d'aujourd'hui vis-à-vis du monde du travail. On n'est pas, il n'y a pas de vraie réflexion sur le sens du travail, les outils de surveillance des travailleurs ont même plutôt tendance à augmenter. C'est-à-dire que dans la question du donnant-donnant, eh bien, lorsque vous êtes présent au travail, eh bien, on va là encore plus développer des systèmes de surveillance, justement au nom, en quelque sorte, d'évaluation du dispositif, eh bien, on va encore plus surveiller les performances individuelles et collectives. Or, c'est là où, si vous voulez, sur le long terme, on a du mal à évaluer l'impact de l'ensemble de ces dispositifs sur les travailleurs eux-mêmes, sur leur santé mentale. On a du mal à distinguer ce qui peut être aujourd'hui, à travers ces nouvelles démarches, tout simplement, il y a un changement, donc on se dit, voilà, c'est très très satisfaisant, et une mécanique qui serait nettement plus long terme, qui effectivement améliore leur rapport au travail pour ses salariés et améliore fondamentalement le rapport entre leur vie professionnelle et leur vie familiale et personnelle.
Le bien-être au travail peut prendre une autre forme à l'extérieur de l'entreprise cette fois, c'est de permettre aux salariés d'aller prendre l'air. C'est ce que tente le groupe Orange. Si l'initiative a retenu l'attention, c'est parce que le nom de l'entreprise est associé à la vague de suicides des années 2008-2009. 19 employés se sont donné la mort, 12 ont tenté de se suicider. Au mois de septembre, l'ancien PDG a été condamné à un an de prison avec sursis. En réaction, Orange veut se montrer à la pointe du progrès social. Depuis cette année, le groupe propose à ses salariés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté de partir en année sabbatique avec 70% de leur salaire pour réaliser un projet personnel. Celui de Delphine, c'est d'être bénévole dans une association qui veut notamment améliorer le quotidien des aveugles. Antoine Gignot et Gilles Gallinaro la rencontrent à Aix-en-Provence où elle a décidé de passer son congé dit de respiration.
On va entrer, hein.
Merci.
Je vous fais un cours ?
Oui, moi aussi, oui, merci.
Moi, le matin, il me faut beaucoup de café pour démarrer.
On vous cueille un peu au saut du lit. Est-ce que les journées, elles changent quand on change d'environnement de travail ?
En fait, ce que j'aime avec ces journées-là, depuis que je suis en respiration, c'est que pour moi, elles sont vraiment très équilibrées. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé quelques coups de fil à mes partenaires ce matin ou à des collègues bénévoles. Après, on va aller sur le terrain, donc faire le couloir sonore. L'après-midi, je suis à la bibliothèque Méjeanne. Après, je dois passer à la mairie aussi pour échanger avec la ville. Après, je vais peut-être rentrer chez moi, rebosser un peu sur le PC. Je suis pas tous les jours devant l'ordinateur, en fait. C'est ça qui a vraiment changé. C'est très équilibré entre intérieur et extérieur.
Le rythme, c'est quoi ?
Le rythme, il est assez variable et ça me plaît bien aussi. J'ai une grande autonomie. On va dire que je travaille un samedi sur trois. En ce moment, un petit peu plus, mais... Et lundi, par exemple, je vais pas travailler, je vais rattraper. Donc voilà, je suis vraiment libre dans mes horaires. Je peux des fois me lever le matin et me dire, tiens, là, j'ai pas spécialement d'inspiration. Je vais faire, une heure de yoga, par exemple. Mais par contre, je vais bosser plus le soir. Donc je sens une plus grande liberté, ouais.
Si on remonte un peu le temps, juin dernier, dans quel état d'esprit vous abordez ce congé et qu'est-ce qui vous amène sur cette route-là ? D'abord, ça s'appelle congé de respiration. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, vous étiez en asphyxie ?
En plus, moi, je suis apnéiste, donc ça me fait rire. Je peux tenir 5 minutes, 5 secondes sans respirer. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Je trouve que le terme est un peu mal choisi parce que moi, j'avais quand même de la chance d'avoir une manager qui me faisait confiance. Et franchement, je bossais bien chez Orange. Après, voilà, j'avais vraiment ce besoin d'aller voir autre chose, de trouver davantage de sens dans une association. Je sais pas, moi, j'ai pas l'impression qu'on respire davantage. Enfin, la différence, peut-être, c'est que là, dans ce que je fais, chaque heure est utile, en fait. Je pense que je bosse peut-être moins, en nombre d'heures, vraiment, sur la semaine. Pardon pour ma petite chienne qui aboie. Mais par contre, la différence vraiment, c'est que chaque heure est utile. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais côté chefferie de projet chez Orange, où voilà, des fois on se retrouve en réunion, on se dit mais pourquoi je suis là en fait, la réunion dure 3 heures, j'interviens 20 minutes. Là vraiment, il y a rien qui se perd en fait. C'est assez incroyable. Tout ce que je fais a un sens en fait. Et c'est vraiment ça qui est radical pour moi.
Qu'est-ce qu'on fait du coup ce matin ?
Alors ce matin, on a un programme chargé mais souple, vu la météo. Donc l'idée, c'était d'aller tester les couloirs sonores mis en place par la ville d'Aix-en-Provence. Et l'après-midi, j'ai rendez-vous avec la ville pour discuter de plein de projets.
Branche Téton, avenue des Belges. La poste. Traversée en deux temps.
Là, il vient de se déclencher, mais étant donné qu'il est vert, il n'annonce pas ma position. Il va annoncer la position que quand il sera rouge.
D'ailleurs, ça en fait, il faudrait... Voilà.
Traverser en deux temps.
Là, on est vraiment dans le très concret. Là, on est sur le terrain et ouais là, on ne peut pas être plus concret.
Ça change quoi ?
Ça fait du bien d'être en extérieur, ça fait du bien d'être vraiment au contact des personnes qui sont concernées. En fait, ce qui me manquait peut-être, c'est d'être davantage sur le terrain et puis les temps aussi. Les temps ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que là, ça va quand même très très vite ce qu'on fait. On décide d'un truc, on va le mettre en application dans les semaines qui suivent. Chez Orange, j'étais sur des gros projets, donc avec des temps très longs. Et des fois, je suis assez impatiente et j'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite. Après, voilà, je réfléchis aussi beaucoup à la reprise quand même, parce que ça va arriver vite et que là, j'ai tous les chakras qui sont alignés, on va dire. Et j'aimerais que ça reste comme ça à la reprise.
Il y a un peu une crainte du mur qui se rapproche.
Je vois pas ça comme un mur, mais c'est clair que ça va être un changement. En même temps, je reviens vers quelque chose que je connais, donc. J'espère revenir en fait en ayant les moyens de quand même changer des choses dans mon quotidien. Plus de liberté dans la manière de gérer. En fait, avant, je passais, je sais pas, 4-5 heures de ma journée en réunion. Ça, pour moi, c'est chaos à la reprise. Je ne vais en réunion que si c'est hyper utile. En fait, c'est ça, c'est qu'à la reprise, je veux faire que de l'utile.
Au-delà de retourner chez Orange, il y aura aussi lâcher ce poste-là.
Ouais, c'est une question. En fait, plus ça va... Au début, j'étais partie vraiment sur une parenthèse d'un an. Et là, plus ça va, plus je me dis... En fait, comme je commence à avoir bien tous les contacts, à être bien rodée, je me dis, c'est pas possible, je peux pas abandonner ça au bout d'un an, donc je continuerai en tant que bénévole. Par contre, il faut voir après si j'arrive à le mettre en place avec mon job. Et le fait d'être à 70% aussi de salaire et de voir que je m'en sors, ça, en ce moment, je m'interroge sur le fait de reprendre à 100% ou pas. Peut-être de reprendre à 80%. Moi, ça me permet vraiment de mieux me connaître, en fait. Et c'est pour ça que oui, j'ai envie de garder ça à la reprise en juin prochain, quoi.
Rouge, piéton. Traversé en deux temps. Rouge.
Gervais Pellissier, directeur des ressources humaines du groupe Orange. L'attractivité, c'est à la fois attirer des gens de l'extérieur, mais surtout garder et encourager ceux qui sont là. Et je pense qu'en partie pour les générations qui arrivent, avoir des gens qui ont un peu plus d'expérience, qui ont 10, 15 ans ou plus d'ancienneté, et les voir peut-être plus épanouis, c'est peut-être important, comme on oublie que l'essentiel de l'attractivité dans un job, quand on y est, c'est l'équipe dans laquelle on travaille.
Qu'est-ce que vous espérez de ce type d'initiative ? On est dans un groupe qui a été presque symbole de la souffrance au travail. Est-ce qu'on tourne définitivement la page ?
Est-ce qu'on tourne la page de la crise sociale ? Avec Stéphane Richard, on l'a déjà essayé de la tourner depuis un certain temps. Et ce qu'a dit la Cour d'appel, et c'est intéressant, c'est qu'il peut toujours y avoir dans une entreprise des phénomènes qui recréent de la souffrance au travail et une forme de souffrance morale au travail. On n'est pas dans la souffrance physique, là, on est dans la souffrance morale. Donc, il faut toujours faire très attention à ça. Et derrière ça, je crois qu'il faut que les gens qui travaillent, quel que soit leur niveau, ils aient le sentiment qu'ils aient le choix, qu'on leur rappelle qu'ils ont un choix, que rien n'est inéluctable. On n'est pas là pour rester dans le même poste toute sa vie si on n'en a pas envie. Si on en a envie, tant mieux. Mais si on n'en a pas envie, on peut faire autre chose. Surtout dans un grand groupe, on a toujours une possibilité d'aller faire autre chose. La crise des suites que vous rappeliez tout à l'heure,
elle a fait émerger le fait que les gens ne se sentaient plus en maîtrise de leur vie. Ils ne risquaient pas d'être mis à la porte, ils ne risquaient pas... C'est pas ça, ils n'étaient pas brutalisés physiquement, mais ils ne se sentaient plus en maîtrise de leur vie. Donc c'est redonner cette capacité de maîtriser sa vie, au moins dans sa dimension professionnelle, c'est ça qui est le plus important pour moi. Peut-être qu'il faut envisager à terme dans l'entreprise des gens qui exerceraient deux métiers, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, pourrait très bien avoir une dualité, parce qu'on sent aussi que peut-être que pour certains métiers, certaines fonctions, on n'a peut-être pas envie de l'exercer de façon permanente toute la semaine. Je pense que la dualité d'emploi dans l'entreprise, voire la dualité d'emploi avec une autre activité, par exemple quelqu'un qui serait pour partie en libéral, je discutais de ça d'ailleurs avec des spécialistes de la santé, on a besoin, alors respirer, s'aérer, pas être en permanence dans la même routine.
Il y a une vraie évolution, c'est générationnel aussi.
Je pense que c'est générationnel, c'est lié aussi à la fragmentation du temps, et la crise Covid a probablement accentué ça. C'est-à-dire qu'elle a montré qu'on pouvait travailler en n'étant pas dans le même espace que d'habitude pour beaucoup de gens. Je prends l'exemple, là encore une fois, d'Orange. On était à moins de 15% de salariés qui télétravaillaient avant la crise sanitaire. On est à 60% aujourd'hui. Mais ça suppose aussi qu'on réfléchisse à comment on aide les salariés à eux-mêmes gérer leur équilibre. Quelqu'un qui fait des mails à 11h du soir, si vous ne l'aidez pas à gérer son équipe, ce n'est pas très sain. C'est tout ça qu'il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui.
Travailler autrement pour vivre mieux, c'était un reportage d'Antoine Chignot avec une prise de son signée Gilles Gallinaro, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Manon Houssin. Ce reportage est déjà à la réécoute sur le site de France Inter.